Pareil, levez la main ceux qui sont stressés. Robert, où est-ce que tu es là? Robert, il est stressé. Il y en a qui sont stressés. Ah! J'ai rien dit. Et aujourd'hui, on vit dans le stress, pas vrai? Les experts nous disent que le stress, c'est une réaction lorsqu'on fait face à un danger ou qu'on doit fournir un effort particulier pour s'adapter. Ça relève souvent des peurs et des craintes qu'on a. Maintenant, certaines peurs sont tout à fait normales. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous faire peur. Ils ont inventé, imaginez-vous donc, ils viennent de créer des montagnes russes qui brisent tous les records. Croyez-le ou non, 420 pieds de haut, 128 mètres, près de... Regardez ça, là. C'est ça que ça a l'air quand vous êtes en haut. Regardez ça, incroyable, hein? La prochaine diapo, regardez ça, ce que ça a l'air quand vous êtes en haut. Incroyable, hein? Dites qu'il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai dit une affaire. Moi, là, on n'est pas fait. On n'a pas été créé pour ça. Tu comprends? C'est pas normal. Regardez ça, c'est incroyable. 128 mètres. Quand vous êtes en haut et vous commencez à descendre, vous descendez à une vitesse de près de 200 km/h. C'est-tu assez vite? Incroyable. Ça, c'est une peur qui est normale, vrai? Dites qu'il y en a qui aiment ça. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça ici, les montagnes russes? Hey, vous êtes plusieurs parmi vous, hein? Vous n'êtes pas normal! Si on avait été fait pour voler, Dieu nous aurait donné des ailes. Vrai? Hey, ça, c'est une peur normale. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission de télévision qui s'appelle Fear Factor. En français, c'est facteur de risque. C'est pas tout à fait pareil, hein. Je pense à là que c'est pire aux États-Unis. Et plus de 20 millions de personnes regardent cette télé-réalité fidèlement chaque semaine. C'est une émission qui pousse les concurrents à faire face à leurs plus grandes craintes. Et croyez-moi, ces craintes sont très réelles. Qu'il s'agisse de gravir une échelle démesurée pour empoigner un drapeau, de passer à travers une vitre ou se baigner avec des serpents. L'émission Fear Factor a tout essayé. Le gagnant est celui qui a réussi 3 cascades et le cas échéant, il ramasse une cagnotte de 62 000 $ canadiens. D'ailleurs, un site Internet a décidé, tiens, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder toutes les cascades, les épreuves qui ont été soumises aux concurrents, puis ils sont allés chercher les 10 pires cascades, les 10 pires épreuves que Fear Factor a fait passer à leurs concurrents, d'accord? La pire en haut de la liste, là, la pire des épreuves qu'ils ont incité leurs concurrents à faire, savez-vous c'est quoi? C'est de manger la pizza Fear Factor. Laissez-moi vous la décrire. La pizza Fear Factor. Les concurrents ont été tenus de manger une pizza dont la croûte était faite de bile de vache, recouverte d'une sauce composée d'une purée de sang coagulée, et recouverte, excusez-moi, d'une sauce, non, ça je l'ai dit, recouverte d'un fromage râpeux, et de vers de terre rouge vivant ou de yeux de poisson. Vous avez faim? Vous avez faim d'aller dîner? Hey, tapis de sang, hein? Maintenant, l'émission exploite un principe bien simple. On a tous des peurs, d'accord? La peur nous sauve la vie par moments. Elle peut des fois la gâcher. Elle peut nous faire trembler. La peur peut littéralement nous faire pleurer, reculer. La peur nous contraint à de multiples renoncements. Et la peur est souvent un handicap. Ce qui explique la raison pour laquelle la tranquillité de l'esprit, la paix intérieure, est une industrie tellement lucrative. Ils ont tout sorti pour que vous ayez la vie intérieure, la paix intérieure. Par exemple, moi j'aurais besoin de voyages qui me donneraient la paix intérieure. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui vont dépenser des milliers de dollars à aller en voyage pour essayer d'avoir un petit peu de vie intérieure dans une île déserte à quelque part très exotique. Amen. D'autres, ce qu'ils vont faire, ils vont aller dans le nouvel âge pour essayer de trouver un petit peu de paix intérieure, puis de regarder le soleil, puis essayer d'avoir toute l'énergie pour avoir ce calme à l'intérieur. Ils ont même inventé un parfum qui s'appelle le parfum de la paix. Et c'est supposé que les femmes se sentent tout à fait sereines. Hey. En tout cas, On fait de l'argent avec la peur. C'est une industrie. Mais d'autres fois, la peur est réelle et elle nous bloque, elle est un handicap, elle nous fait renoncer à toutes sortes de choses et on a de la difficulté à s'épanouir à cause de la peur lorsqu'on fait face à des situations qui sont difficiles et très réelles. Plusieurs vivent dans le stress, l'anxiété et vont connaître des tensions émotionnelles et évidemment psychologiques. Quand on s'arrête et on analyse les gens, quand on se regarde, on découvre qu'il y a trois situations, trois facteurs de stress, trois tensions qui expliquent pourquoi on a de la difficulté à s'épanouir et qu'on a de la difficulté à avoir cette paix intérieure. Premièrement, on perd notre paix quand les circonstances autour de nous sont incontrôlables. Vrai? Vous avez juste à être placé à 5h30 sur le boulevard des Carrières à Montréal, vous êtes pris dans le trafic et puis vous ne pouvez absolument rien contrôler. Qu'est-ce que ça fait? Vous vous retrouvez dans le trafic, vous ne pouvez absolument rien contrôler, vous êtes pris là, vous êtes prisonnier, vous ne pouvez rien faire. Et là, qu'est-ce qui se passe en dedans? Vous commencez à être stressé. Vrai? Vous commencez à perdre la paix intérieure. Vous commencez à faire du stress. Vous n'aimez pas ça. On n'aime pas ça parce que c'est des situations qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut rien faire. Il y a d'autres situations plus difficiles encore, par exemple. C'est quand un couple ne peut pas avoir d'enfant. Ils essaient pendant des années, puis ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Ça, c'est des situations incontrôlables qu'on ne peut rien faire. Ça arrive. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ça, c'est d'autres facteurs, des expériences qui nous dérobent de la paix intérieure. Ça se comprend très bien. Une autre raison, c'est un autre facteur de stress, c'est quand on perd notre paix, quand les gens sont inflexibles. Les gens autour de nous, on a tous une résistance au changement, vrai? Chacun d'entre nous, on résiste au changement. Quand tu essaies de me pousser à changer mes belles petites habitudes, ma belle petite routine, j'aime pas ça. Et ça l'enlève, ça me donne du stress. Tu comprends? On n'aime pas ça. Quand je vois ma secrétaire qui me regarde avec un gros sourire. Hey, 95% de ce qu'on fait, on le fait par routine. 9 chances sur 10, demain matin, tu vas manger exactement les mêmes céréales que tu as mangé le matin. 9 chances sur 10, c'est ça que les experts nous disent. On n'aime pas changer nos habitudes. Ça nous rend inconfortable. On résiste au changement. On est comme ça. Et vous savez, il y a des fois, on veut changer notre mari. On veut changer notre épouse, puis on a notre liste, là, puis toi, il devrait être de même, là, je serais vraiment heureuse. Là, j'aurais la paix intérieure en moi si seulement mon mari était comme ça. Si seulement ma femme était comme ça, je serais le gars le plus heureux sur Terre. Troisièmement, on perd notre paix quand les problèmes sont inexplicables. On n'a pas d'explication devant nos problèmes. Ça, c'est difficile, hein? Les pourquoi de la vie? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi maintenant? Pourquoi là? Je commençais juste à être heureux, j'avais fini un problème, il y en a un autre qui sort. Je comprends pas pourquoi là. C'est pas juste. Est-ce qu'il y a des situations injustes? Oui, c'est pas juste. Alors, ce qu'on a besoin là, vous savez ce qu'on a besoin? On a besoin du Dieu de la paix. Il y a un nom, Dieu s'appelle, il y a plusieurs noms dans les Écritures, vous savez, pour Dieu, c'est justement cette série est en train de regarder les noms de Dieu et comment chaque nom de Dieu est une façon propre à Dieu de nous dire, regarde, c'est un besoin, en dedans de toi, dans ton cœur, je vais y répondre. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à regarder la série. Ce matin, ce qu'on regarde, c'est un nom de Dieu qui est, Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, qui veut dire, je suis le Dieu de la paix. Tu as besoin d'une paix intérieure. Et Dieu est en train de dire, sais-tu, moi je suis le Dieu qui va te donner cette paix intérieure que tu recherches et que tu as besoin. Nous avons tous besoin de cette paix intérieure dans notre cœur. Et Dieu est celui qui peut nous la donner, cette paix intérieure dans notre cœur. Jean 20, 19, Jésus dit, que la paix soit avec vous. Dans Jean 14, 27, nous lisons, je vous laisse la paix, dit Jésus, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Certains de parmi vous qui sont ici ce matin, vous avez besoin d'entendre cette parole de la part de Jésus-Christ, qui dit, sais-tu, ne sois pas troublé. Ne t'alarme pas. Je suis là. Ne t'alarme pas. Oui, je connais ta situation. Ne t'alarme pas. Je suis là. Le Jéhovah Shalom est là. Il veut te donner sa paix. Ce que ça veut dire, c'est que si nous lisons ici, Jésus est en train de nous dire, je vous donne ma paix. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut travailler pour l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire pour l'avoir. C'est un don qui vient exclusivement de Dieu. Et là, d'abord, tu vas te poser la question, mais pourquoi moi, je ne l'ai pas, cette pierre-là? Et d'ailleurs, c'est ça qu'on va regarder ce matin. Nous regarderons comment trouver la paix intérieure. Quel est le chemin qu'on doit suivre? Quelles sont les étapes qu'on doit franchir pour avoir cette paix intérieure-là? Dans Jean 16, 33, Jésus dit ceci. Et ce que ça veut dire, c'est que notre vie ne sera pas sans problème. C'est la première chose qu'on doit dire. Tout de suite, on doit dire qu'une vie sans problème, une vie sans nuage, ça n'existe pas. On va tous avoir des problèmes un jour ou l'autre. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations. » Dans l'original, ça veut dire détresse, des difficultés. « Vous aurez des difficultés dans le monde. » Jésus l'a dit. « Vous allez avoir des problèmes. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la paix intérieure ne relève pas d'une vie sans problème. C'est bon de savoir qu'on peut avoir la paix même en dépit des difficultés auxquelles on peut se retrouver. Voyez-vous, la paix intérieure relève de trois décisions qu'il faut prendre. Trois choix, trois décisions qu'il faut prendre. Et ce matin, moi, j'aimerais vous inciter, vous encourager à prendre ces trois décisions-là. Trois choix que tu dois faire ce matin si tu veux avoir cette paix intérieure dans ton cœur. Premièrement, l'acceptation. Deuxièmement, la confiance. Et troisièmement, l'abandon. C'est très court. Acceptation, confiance et abandon. Très court, mais c'est tout un contrat, hein? Premièrement, accepte ce que tu ne peux pas changer. S'inquiéter pour des situations qu'on ne peut pas changer va nous priver de la paix. On ne pourra pas avoir la paix. Avoir du ressentiment, devenir amer, ce qu'on ne peut pas changer, nous enlève la paix. Se sentir même coupable qu'on ne peut plus changer, quelque chose qu'on ne peut pas changer, quelque chose qu'on a fait et qu'on regrette. Vous savez, il y a des gens qui passent leur vie dans la culpabilité, ils ne sont jamais en paix toute leur vie. Des choses qui se sont passées quand ils étaient jeunes, puis ils se sentent coupables toute leur vie, puis tu les retrouves à l'âge de 55 ans, à l'âge de 60 ans, et ils ne sont pas encore en paix. Tu ne peux pas changer ces choses-là qui se sont arrivées dans le passé. C'est fini. Accepte ce que tu ne peux pas changer. On a un bel exemple avec le roi David dans 2 Samuel 12. Premièrement, David avait eu un enfant. Il était très heureux d'avoir un enfant. C'est une joie d'avoir un enfant. C'est une bénédiction. Hier, on est allé voir le musée là, des Beaux-Arts, aller voir toute l'Égypte éternelle, l'Égypte ancienne, l'Égypte éternelle et tout ça. Et puis, on a invité mon beau-frère, ma soeur, ma fille. Julie est venue avec Joël. Et Joël, il n'aurait pas manqué ça pour tout l'heure au monde. Et on est allé en bas de la ville. Ça, puis là, on a tout fait ensemble en famille. T'sais, la joie de voir tes enfants tout ça là, grandir, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un est venu me voir ce matin pour me dire que son épouse était enceinte. Puis quelle joie, hein? J'ai pas le droit de vous le dire. Non, non, je ne vais pas le dire parce que j'ai fait l'erreur la semaine dernière d'annoncer. Puis la personne voulait l'annoncer elle-même, tu sais, fait que je ne veux pas. J'oserais pas. Vous allez l'entendre parler. Mais vous savez, c'est David a eu un enfant, mais malheureusement, ils ont eu une épreuve parce que l'enfant est tombé malade. Et David a tout fait pour essayer de changer la situation. David est allé prier, est allé au temple, passé 16 jours, 24 heures sur 24, il priait, il jeûnait, il criait à Dieu, il implorait le Seigneur, il a tout fait pour essayer que Dieu ait la grâce, la pitié envers cet enfant qui était malade pour qu'il puisse se sauver. Il a tout fait. Après 16 jours, malheureusement, l'enfant est mort. Il n'y a rien de plus terrible d'avoir un enfant qui meurt. Vous connaissez les témoignages, hein, peut-être des gens que vous connaissez dont leur enfant est tombé malade puis sont morts. Moi, je pense juste à Myriam et Jean de l'église d'Anjou qui ont perdu leur fils. Et Jean me racontait comment est-ce que son rêve, il a un commerce d'aviation et tout ça, puis son rêve était, il a des filles, il a d'autres enfants, puis là, il y avait ce garçon-là, et c'était son seul garçon, puis son rêve, c'était de remettre son entreprise à son fils, et son fils continue. Et là, son fils meurt pour une négligence médicale, tout à fait injuste. C'est déchirant d'avoir une expérience où tu perds ton enfant. Je n'ai pas connu ça, mais j'ai connu avoir des enfants malades, et certainement, ça nous rend à l'envers. Et David, on n'a pas de raison, Dieu ne donne pas de raison, et là, son enfant va mourir après 16 jours. Et là, tous ses conseillers personnels de David ont peur de lui dire, David ne le sait pas, son fils vient de mourir, alors les conseillers se parlent, puis ils ne savent pas, ils ont peur de se faire tuer à la nouvelle. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Le fils de David est mort. Est-ce qu'on doit le dire? Comment est-ce qu'on va le dire? Il faut le dire. Mais là, David n'était pas tellement loin, puis il les a entendus chuchoter. Son fils était mort. Fait que, il leur a demandé, est-ce que mon fils est mort? Alors là, tant bien que mal, les conseillers ont dû avouer, oui, ton fils est mort. Alors, vous savez ce que David a fait? Il est parti prendre son bain, il s'est changé, pris un habit neuf, il est allé souper, manger un beau festin, un beau repas pour se retourner travailler. Les conseillers sont allés voir David, mais ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? On t'a vu pleurer pendant 16 jours, on ne comprend pas. Mais il dit, sais-tu quoi? Mon fils est au ciel. Il est dans la présence de Dieu, puis un jour, je vais aller le retrouver. Il dit, là, j'ai du travail à faire, je vais aller travailler. Incroyable, hein? C'est difficile à comprendre qu'une personne que son temps de deuil soit si court. Et on ne veut pas manquer de sensibilité envers ceux et celles qui connaissent le deuil comme ça. Certainement, on a le droit d'être en deuil, puis c'est correct. Même Dieu comprend très bien. Jésus même a cité des femmes en deuil à cause de leur enfant qui était mort. Mais il y a un principe à retirer ici de l'exemple de David, que David avait appris à accepter une situation qu'il ne pouvait pas changer. Il a appris à accepter ça, et ça lui a redonné cette paix intérieure qu'il avait besoin. Philippiens 14, l'apôtre Paul va dire, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Soulignons certains détails ici des paroles de l'apôtre Paul. Premièrement, l'acceptation, c'est une expérience qui s'apprend. L'apôtre Paul a dit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » L'apôtre Paul qui était en prison, l'apôtre Paul qui était dans une cellule, a appris par l'expérience à être content dans l'état où il se trouve. C'est une expérience, c'est par l'expérience, c'est l'école de la vie, ça nous enseigne l'acceptation. C'est un choix qu'on doit faire d'accepter des situations qu'on ne peut pas changer, mais ce choix-là, l'acceptation, on ne peut pas le faire à moins d'avoir la puissance surnaturelle de Dieu. Et Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est ça le secret de ma force, de pouvoir accepter des situations que je ne peux pas changer, dit Paul. C'est par celui qui me fortifie. Plusieurs ont pris ce verset-là à tort. J'ai entendu des églises à tort où les gens étaient là, pompaient les gens dans l'assemblée, disaient, « Ah, je puis tout par celui qui me fortifie. Ah, moi, je peux tout. Je peux aller chercher des millions. Je vais être un homme d'affaires. » L'apôtre Paul dit tout à fait le contraire. Je suis capable d'accepter les situations que je ne peux pas changer. Être dans l'épreuve, être en prison, être dans les cellules, même s'il faut. Pourquoi? Par celui qui me fortifie. Amen? C'est ça que ça dit ici. Puis tu sais pourquoi des fois on a la misère à avoir la paix en dedans de nous? C'est parce qu'on a toujours cette question-là. On veut savoir pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Hein? On veut avoir des explications. On veut tout avoir des explications. On aimerait tout comprendre ce qui se passe. Hein? Puis ça, on lutte en dedans parce qu'on veut comprendre. Laisse-moi dire trois choses ici. Premièrement, Dieu n'est pas tenu d'avancer des explications. Dieu n'est pas obligé de nous fournir des explications. On est sa créature. Lui, c'est le créateur. Il n'est pas obligé de nous donner des explications, des détails sur tout ce qu'il fait et pourquoi il fait ce qu'il fait. Il faut juste s'en remettre à lui. Deuxièmement, même si Dieu nous donnait tous les pourquoi de la vie, on ne comprendrait probablement pas. Honnêtement, là. Vrai? Il y a des situations qui nous dépassent. Vous savez, certains parmi vous, vous savez pourquoi vous vivez ce que vous vivez, les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Parfois, on sait pourquoi. Et est-ce que ça change? Ça nous donne plus de paix en dedans de nous de comprendre pourquoi? Les explications ne nous donnent jamais la paix. Honnêtement, ce n'est pas les explications qui nous donnent la paix. Si seulement je savais pourquoi ça irait mieux, ça c'est faux, c'est pas vrai. Ce qui nous réconforte vraiment, c'est juste une chose, c'est la présence de Dieu. C'est savoir que Dieu est avec nous en plein milieu de notre vie, en plein milieu de la situation. Dieu est là. Les soins de Dieu sont réconforts. Cessons de chercher les explications pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Arrêtons ça, oublions ça. Tu n'as pas besoin d'avoir d'explications. Es-tu capable d'accepter ça par la foi ce matin? Tout un pas, hein? Tout un choix d'accepter ce que je ne peux pas changer par la foi. Mets de côté les explications. C'est fort, ça. C'est un gros pas de foi à faire ça. Hein? On prend l'exemple de Job. Job a souffert, mon ami, en 48 heures, il a perdu 10 enfants. Imagine-toi, pas un enfant, 10 enfants. En 48 heures, il a perdu tous ses enfants qui ont été tués, il a perdu sa richesse, il a fait faillite, tout perdu, son entreprise. Puis non seulement ça, il est tombé malade avec ses plaies, des plaies ouvertes. Alors, il souffrait 24 heures sur 24. Non seulement ça, sa femme vient le voir pour l'encourager, puis elle dit, « C'est-tu ce que tu vas faire, toi-là? » Maudit Dieu. Puis toi, meurs. Comment tu vas faire être marié à une femme comme ça? Ça, c'est tout du counseling. Hein? Relation d'aide. Elle s'en va son mari. Elle dit, « Ton Dieu, là, il a fait ça, là, il a tué mes enfants. » Maudit Dieu. Puis toi, meurs. Hey, imagine. Imagine-toi donc Job se retrouver dans cette situation-là où sa femme vient dire, toi, je préférerais que tu meurs. Je veux que tu meurs. Ton mari vient de te dire ça. Là. Ta femme vient de te dire ça. Moi, je veux que tu disparaisses de ma vie. Meurs. Puis ton Dieu, tu sais quoi faire avec. Incroyable. Maintenant, Job a demandé pourquoi. Job a fait une prière, il a demandé au Seigneur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Job doit avoir des explications. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant 37 chapitres, Dieu, pas un mot. Silence total pendant 37 chapitres. Est-ce que tu te sens comme ça des fois que pendant 37 chapitres de ta vie, Dieu est silencieux, ne te donne aucune explication? Vrai? Mais Nazareth servait à quoi? Que Dieu commence à venir voir Job. Dit, écoute bien, Job, je vais t'expliquer une affaire. Il y a des forces que tu ne comprends pas. Moi, le diable est venu me voir au ciel. C'est ça qu'on voit au chapitre 1. Mais Job n'avait pas lu le chapitre 1. Il ne savait pas, lui, que le diable est allé au ciel, puis contestait, puis critiquait l'intégrité de Job, puis que Dieu allait prendre Job et son témoignage fantastique pendant des générations, qui allait s'en servir même en 2005 à Longueuil pour qu'on puisse s'en inspirer, pour que nous autres, on puisse être édifiés. Est-ce que Job savait ça? Ça aurait donné quoi? Que Dieu aille voir Job. Il dit, Job, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer ce qui arrive. Tu sais, tu as perdu tes 10 enfants, tu as perdu ta compagnie, ta femme t'en veut, elle ne veut plus rien savoir de toi, tu es tout seul, tu souffres, tu es malade. Tu sais pourquoi? Pas compliqué. Parce qu'en 2005, après Jésus-Christ, Annie est venue me voir tantôt, elle dit, tu sais, imagine-toi donc comment Job devait se sentir, 2005, après Jésus-Christ. Jésus-Christ, quoi? Après quoi? Alors Dieu vient voir Job et lui dit, sais-tu, en 2005, après Jésus-Christ, l'Église de Longueuil va être bénie par ton témoignage. Hein? 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 Est-ce que ça leur a fait quelque chose de donner des explications à Job? Ça leur a-tu aidé dans ses souffrances? Sinon, il aurait continué à souffrir. Mais qu'est-ce que Job avait besoin? C'est qu'un Dieu vienne le voir et dit, sais-tu, Job, j'étais avec toi. J'étais avec toi, Job. Il m'a donné ma grâce, il m'a secouru. Et Dieu l'a béni, vrai? Dieu l'a béni, mon ami, plus qu'il n'avait jamais été béni. C'est ça que Job avait besoin. Ce n'est pas les explications, parce que les explications ne changent pas la situation. Mais la présence de Dieu, par exemple, son réconfort, ses soins, sa promesse qui va intervenir, qui est là avec nous, ça change. Connaissez-vous la prière de sérénité? Des millions de personnes font la prière de sérénité à chaque jour. Une belle prière. Elle a été rédigée par un pasteur. Bien, les gens ne savent pas ça. Hein? C'est mieux connu par la prière des AA. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est la prière d'un pasteur évangélique du nom de Reynold Niebuhr en 1926. Vous la connaissez peut-être. Laissez-moi vous la lire. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. » Toute une prière profonde, hein? Mais savez-vous que ce n'était pas la prière originale, ça? La vraie prière originale, telle qu'elle a été donnée par ce pasteur-là, est la suivante. Et la force de la prière se trouve comme ça. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. De vivre un jour à la fois, d'apprécier un moment à la fois, d'accepter les épreuves comme le chemin vers la paix, comme Jésus l'a fait. Ce monde comme il est, et non comme je voudrais qu'il soit, de croire que vous allez prendre soin de tout si je capitule et si je m'en remets à votre volonté, que je peux être raisonnablement heureux dans cette vie et suprêmement heureux avec vous pour toujours dans le futur. Amen. Quelle prière, hein? On en a fait quelques copies pour vous au kiosque. Ça, c'est tout différent, parce qu'on voit la puissance de cette prière-là qui montre le chemin vers la paix. Premièrement, l'acceptation. Deuxièmement, la confiance. Et troisièmement, l'abandon. On voit ces trois choix que cet homme fait dans sa prière. Mais n'est-ce pas des problèmes de santé? Tu as un handicap, difficulté. Tu fais tout ce que tu peux faire pour essayer de guérir ta maladie, mettons que tu es malade ou quelqu'un est malade chez vous, tu vas chez le médecin, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais si tu arrives à un mur, tu ne peux rien changer, accepte la situation que tu ne peux pas changer et remets-toi-en à Dieu. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Si tu as des problèmes avec un enfant, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu demandes des conseils, tu vas voir des gens qui ont plus d'expérience, tu poses des questions, tu t'adresses à l'enfant, tu parles à l'enfant, tu passes du temps avec lui, tu l'aides, tu fais tout ce que tu peux faire. Mais si tu arrives à un mur, j'ai rencontré des gens justement ce matin qui me parlaient de ça. La difficulté, il arrive à un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Plus rien à faire. Tout essayer. Qu'est-ce que tu fais quand tu as tout essayé et ça ne bouge pas? Tu acceptes la situation que tu ne peux pas changer. Et tu remets ça au Seigneur. Si tu es dans un mariage qui ne fonctionne pas, tu as tout fait pour essayer de trouver une solution. Et tu essaies de trouver une solution. Tu travailles fort, puis tout ça, mais si tu arrives à un mur et tu n'es pas capable de changer l'autre, t'arrêtes. Accepte que l'autre ne peut pas changer. C'est Dieu qui va le faire. Dieu dit, voici le point de départ qui va te mener au chemin de la paix, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Deuxièmement, fais confiance aux soins tendres de Dieu. Dans Ésaïe 26:3, il est écrit, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en toi. Dieu donne la paix à ceux qui se confient en lui. Proverbe 3:5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Comme on l'a dit tantôt, On ne vivra jamais une vie sans problème. Mais Dieu nous offre ses soins tendres, soins pleins d'amour. Il me semble qu'on règle un problème, il y en a un autre qui surgit, il y en a un autre qui sort. Mais on doit apprendre à avoir de la paix, même en dépit des situations difficiles dans lesquelles on trouve et qu'on ne peut pas changer. Pourquoi avons-nous tant de problèmes? Bien, premièrement, Adam a péché. On vit dans un monde déchu. Adam et Ève vont tomber dans la tentation et à cause de ça, on vit dans un monde déchu. La perfection n'est pas de ce monde. On est entouré de gens imparfaits. Moi, le premier. Deuxièmement, on a un ennemi qui s'appelle Satan. Il y a des forces au-delà de nous. Et je pense que c'est Paul dans Éphésiens qui disait qu'on est impliqué dans une guerre spirituelle. On ne voit pas cette guerre spirituelle. C'est invisible. Mais il y a une guerre pareille. Il y a des combats, il y a des luttes. On a juste à regarder dans le journal de Montréal à chaque jour, puis on voit les œuvres du diable. On voit qu'il essaie de détruire. Il veut détruire. Il veut te détruire, détruire ta famille, tes enfants. Et il veut détruire l'Église. Nous avons un ennemi qui est le diable. Alors, on vit dans un monde très compétitif, un monde déchu, et on a un ennemi personnel qui s'appelle Satan. Mais troisièmement, on fait nos propres erreurs aussi. Parfois, on vit les séquelles un peu de mauvais choix qu'on a fait. Moi, je sais que plusieurs de mes problèmes que j'ai eus dans ma vie, c'était souvent moi. Satan n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, il avait juste de me regarder aller. Il disait, mon ami, on laisse normalement aller. Il n'a même pas besoin de travailler fort. Satan prenait des vacances, il avait juste de me laisser aller, puis tiens, il va se... Je me donnais des propres jambettes à moi-même par des décisions insensées que je pouvais prendre et je vivais parfois des années, des séquelles, des conséquences de tout ça. Alors, on a nos propres erreurs, on fait nos propres erreurs. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir confiance en Dieu et Paul dira dans Philippiens 4:6 qui suit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aime bien le mot « garder » ici, c'est l'image, vous savez que Paul vivait à Rome, et c'est l'image de garde, effectivement, les soldats. Et c'est comme si, de faire confiance à Dieu, d'emmener nos prières à Dieu et d'invoquer Dieu et prier, c'est comme si Dieu, par son Esprit Saint, va placer des soldats autour de ton cœur pour garder ton cœur dans la paix. N'est-ce pas fantastique? Il met une garde qui travaille 24 heures sur 24 pour garder ton cœur en paix, afin que ton cœur reste centré sur Christ. Une femme donne son témoignage, Terry Green, et raconte justement ce qu'elle a appris. Elle a appris à faire confiance en Dieu dans une situation qu'elle ne pouvait pas changer. J'ai fait par exprès pour garder le témoignage intact. C'est un peu plus long, mais vous allez comprendre à la fin pourquoi. On voit tout ce qu'elle a vu et son cheminement. C'est important de voir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, je vous lis son témoignage, d'accord? J'aimerais partager avec vous comment Dieu m'a appris à marcher sur le chemin de la paix quand j'affronte des problèmes insensés, des difficultés que je ne peux changer. Terry raconte, j'ai grandi dans un bon foyer avec une morale et j'ai eu une belle enfance. J'étais très occupé à l'école, j'étais gymnaste et soliste. Parfois, j'avais l'impression d'être comblé. Et à la fin de mes études secondaires, je suis devenue chrétienne et j'ai épousé Brad, un joueur de football étoile qui se dirigeait vers une bourse d'études collégiales. Tout allait bien. Après notre mariage, Brad désirait des enfants, moi je n'en voulais pas. Mais 4 ans plus tard, je suis devenue enceinte et j'en étais très heureuse. Le seul fait d'être enceinte m'a enlevé le désir de ne pas avoir d'enfants. Cara est née 2 mois avant terme et c'était un si beau bébé. Mais Brock, 10 jours après sa naissance, elle eut une insuffisance cardiaque. Elle fut conduite en ambulance à l'hôpital pour enfants à San Diego, où on l'opéra d'urgence pour le cœur. Ce fut le début d'une série de problèmes incontrôlables. Après 2 semaines à l'unité des soins intensifs néonataux, ils effectuèrent d'autres tests. La nuit précédant son retour à la maison, le néonatologiste nous dit que la déficience cardiaque de Cara était si sévère qu'elle ne vivrait pas longtemps. Elle deviendrait éventuellement sourde et aveugle. Et un examen au scanner du cerveau montrait une atrophie qui l'emmenait dans un état végétatif. Pour résumer toutes ces mauvaises nouvelles, il dit doucement, « Je vous suggère fortement que vous la placiez en institution. » C'était la fin de ma vie facile. Toute tranquillité d'esprit était effacée. C'était accablant de recevoir toutes ces informations d'un seul coup. J'avais l'impression, d'ailleurs, que ça ne pouvait pas être vrai et que Dieu allait peut-être faire un miracle. J'étais resté au manoir Ronald McDonald durant son séjour, alors que Brad avait retourné à la maison et au travail. Alors, j'étais toute seule et j'ai eu les nouvelles à prier. Et quand j'ai eu les nouvelles, je me suis mis à pleurer et prier. J'ai pensé que si assez de gens priaient pour Cara, ils seraient guéris. Alors, j'ai appelé mes amis, j'ai demandé des prières pendant toute la nuit. J'étais rempli de crainte et nos amis ont dû penser que j'étais folle à les réveiller à ces heures-là. Le pauvre Brad a dû penser, c'est parfait, je dois aller chercher mon bébé demain. En rentrant à la maison, je dois laisser ma femme à l'institution la plus proche. Le lendemain, Cara n'était pas guérie. Nous avons ramené à la maison une enfant très malade sur moniteur cardiaque et au cours des mois qui ont suivi, il y eut difficulté après l'autre. Le fardeau était écrasant. À un certain moment, j'ai atteint mon point critique. J'étais si fatigué que je voulais sortir de la situation. J'ai pensé que si le ciel était si beau, pourquoi ne pas y être maintenant? J'ai mis 3 jours à préparer un plan pour m'enlever la vie. Je n'avais pas parlé à personne de peur qu'ils essaieraient de m'en dissuader. J'ai figuré que le moyen le plus facile serait de démarrer l'auto dans un garage fermé et simplement m'endormir. Puis j'ai pensé, qui va prendre soin de Cara? Alors j'ai décidé que la meilleure chose, ce serait que nous mourions toutes les deux. Ensuite, j'ai pensé à Brad. Ce serait terrible pour lui de nous trouver toutes les deux mortes. Comme il ne nous suivra pas de son plein gré, j'ai figuré que je devrais l'assommer et le traîner avec moi. Ce serait un vrai problème, puisque Brad est un joueur de football de 6 pieds 2 et je mesurais 4 pieds 11. Le pépin final, c'était que je n'avais pas de garage. Quand j'ai parlé à Brad de la profondeur de mon désespoir et de mon plan, il a insisté pour que je voie un conseiller chrétien. Celui-ci m'a aidé à réaliser que je m'étais appuyé sur mes propres forces pour passer à travers ces mois sombres et que c'était la raison pour laquelle j'étais si déprimé. Au lieu de faire confiance à Dieu et à ses tendres soins, j'avais combattu Dieu. J'ai mis des mois à commencer à accepter ce que je ne pouvais pas changer, m'appuyant sur Jésus pour obtenir de la force. La paix de Dieu est revenue lentement dans ma vie. Avec le temps, tous les médecins nous ont assuré que les problèmes de Cara n'étaient pas génétiques. Ils nous ont même encouragés à avoir d'autres enfants. Alors, avec beaucoup d'espoir, nous avons projeté d'avoir un autre enfant. Quand notre deuxième fille, Tyler, est née, nous étions ravis. Elle était potelée, mignonne, mais quelques jours plus tard, nous avons appris que Tyler avait aussi un problème médical majeur. Mon cœur a chaviré. La moitié de ses petits intestins ne fonctionnait plus et elle a dû subir 2 opérations d'urgence en moins d'une semaine. 2 semaines plus tard, ils nous dirent qu'ils allaient retirer Tyler du respirateur artificiel et la laisser mourir dans mes bras. Elle était mourante et à la suite d'une infection résultant des opérations. J'étais sous le choc. Nous sommes restés auprès du petit lit de Tyler à l'unité des soins intensifs avec les merveilleux parents de Brad, le chirurgien, les infirmières, les aumôniers, l'aumônier, et nous avons prié ensemble. Je ne ressentais absolument rien. Aucune anxiété, aucune pensée de guérison, rien. Je ne sentais absolument rien. J'étais vide à l'intérieur. Mais à la fin de notre prière, j'ai demandé qu'on laisse encore mon bébé sous respirateur artificiel. J'espérais en quelque sorte qu'elle aille mieux. Tyler a subi 5 opérations au cours des 6 mois qui ont suivi et elle a pu finalement rentrer à la maison. Mais elle est revenue à la maison avec une intraveineuse et un tube stomacal. Les pressions financières s'ajoutaient au stress. Les factures d'hôpital pour nos 2 filles s'élevaient en millions de dollars. Et l'assurance ne payait pas tout. Nous étions dévastés financièrement. Pendant que Tyler était hospitalisé, nous n'avions qu'une auto et Brad en avait besoin pour retourner travailler. J'avais besoin de transport pour aller à l'hôpital chaque jour. Nos amis furent incroyables. Chaque jour, quelqu'un appelait et offrait sa voiture pour un jour, quelques jours, une semaine, puis un dimanche. Notre ami nous ont rencontrés pour un brunch et après, l'un des hommes a tendu des clés à Brad et lui a indiqué une magnifique voiture grise avec un énorme ruban rose là-dessus. Et ils nous ont remis une carte qui disait « Avec amour, de Jésus, par tes amis ». 26 personnes avaient contribué à cet achat. Dieu a employé nos amis pour nous montrer son amour et nous donner son encouragement, et il le fait encore pour que nous puissions continuer. À ce moment, Brad et moi avions renoncé à avoir d'autres enfants. Nous faisions tout ce qu'il fallait pour empêcher que ça se produise. 5 jours seulement après la naissance de notre 3e fille, Paige, nous avons dû nous rendre rapidement à l'hôpital pour des examens. J'ai réussi à m'y rendre car mon auto connaissait le chemin. Je l'ai tendu à la technicienne et j'ai complété les formulaires les yeux fermés. Après les examens, j'ai traversé lentement le hall de l'hôpital, Paige dans mes bras. Puis j'ai entendu mon nom, Mme Green. Je me suis retourné pour voir le radiologiste. Il dit, mon nom est Dr. Untel et je sais que vous avez 2 autres enfants et je veux juste que vous sachiez que celle-ci va bien. Cet homme était un ange. Il devait savoir que je luttais avec le suicide et pendant que j'allais la jeter en bas du premier pont sur ma route. À Noël, cette année-là, il y eut plusieurs cadeaux sur le pas de notre porte, le bas de notre porte, la plupart donnés de façon anonyme. L'un d'eux était pour moi. C'était une petite boîte à bijoux et à l'intérieur, il y avait de très belles boucles d'oreilles ornées de saphir. Une note y était attachée. La mère d'un enfant handicapé a porté des boucles d'oreilles et désire vous les donner. Au bas de la note, il y avait un verset biblique de Jérémie 29, 11 qui dit ceci. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'ai pensé à moi-même, je n'ai pas d'espoir, moi. Au lieu de ça, c'est trois petites filles aux couches, deux avec des tubes gastriques et une autre avec de graves déficiences physiques et mentales. Alors j'ai remis des boucles d'oreilles dans la boîte, car en les acceptant, ça signifiait que je devais aussi accepter la vérité de la promesse biblique. En regardant maintenant en arrière, j'ai appris par expérience que celle qui m'a donné ces boucles d'oreilles avait raison. Dieu a de bons projets pour nous, même quand ça semble le contraire. J'ai appris que le chemin de la paix personnelle est possible seulement si nous acceptons ce qui se présente sur notre route et nous faisons confiance à l'amour de Dieu qui prend soin de nous. Aujourd'hui, Paige, à 8 ans, n'a rien de plus sérieux qu'une colique. Tyler est une belle petite fille de 10 ans, croquante et attentionnée, qui ne montre à peu près aucune séquelle de son épreuve. Les médecins disent encore, réalisez-vous qu'elle est un miracle. Notre Cara a encore besoin d'attention spéciale, elle utilise une chaise roulante et ne parle pas, mais elle n'est pas sourde, elle n'est pas aveugle et elle est loin d'être en état végétatif. En fait, elle est l'adolescente la plus patiente, la plus gentille qui soit. Elle a presque 15 ans et passe par un grand changement dans sa vie. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Cara et Tyler souffrent autant? Je ne le sais pas. Je me demande maintenant si je désire ou si je me soucie d'en connaître la raison. Ce n'est pas aussi important pour moi que ça l'était. Ce qui est plus important, c'est d'accepter ce que je ne peux pas changer, de faire confiance à Dieu parce qu'il nous aime et de lui permettre de s'occuper des choses que je ne peux pas contrôler. C'est là que je trouve la paix, non dans les explications. La vie est parfois encore difficile pour notre famille, mais pour moi, la paix est venue en acceptant finalement des versets tels que Romains 8, 28, qui dit que Dieu, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je porte ces boucles d'oreilles, dit-elle. J'ai eu l'occasion de découvrir que Dieu a un projet, un avenir et de l'espérance, même pour moi. Comme le dit souvent le pasteur, Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Au cours des 6 dernières années, j'ai essayé d'utiliser mon expérience pour aider d'autres en faisant partie du ministère de l'Église qui travaille auprès des enfants handicapés. Si vous faites face au défi unique d'être le parent d'un enfant handicapé, si vous êtes désespéré, et à propos d'un problème qui semble sans solution, il y a des gens qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Où que vous alliez, quoi que vous traversiez, vous pouvez expérimenter la paix de Dieu, l'espérance de Dieu et l'amour de Dieu en remettant tout à Jésus-Christ. Cette femme a compris qu'il fallait faire confiance aux tendres soins de Dieu qui nous aime pour avoir la paix. Nous avons besoin de franchir cette troisième étape aussi pour avoir la paix, une décision très importante. Abandonne tout au Dieu d'amour. Voyez-vous, la raison pour laquelle nos pensées sont souvent dans le désarroi, c'est parce que nos pensées luttent avec Dieu. Nous sommes en lutte parfois. Chaque matin que tu te lèves, tu dois prendre une décision. C'est qui va contrôler ma journée? Réalise ça. À chaque fois que tu vas te réveiller puis tu vas mettre le pied à terre, tu dois prendre une décision et dire, c'est qui mène aujourd'hui? Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Nous avons un choix à faire chaque matin. Et plus on essaie de prendre le contrôle, plus on va devenir misérable, parce que ça ne marche pas. Et Romains 8, 6 dit, l'affection de la chair, c'est de la pensée de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si on lutte avec Dieu, on va perdre. On ne gagnera jamais contre Dieu. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser gagner. Et si on veut avoir une paix intérieure et profonde, nous avons besoin de nous abandonner entre les mains de Dieu, de céder le contrôle de ma vie entre les mains de Dieu, du Dieu d'amour qui va prendre soin de moi. Et comment savoir si j'ai fait ça? Par l'obéissance, par ma façon de vivre. On peut voir si on a abandonné notre vie entre les mains de Dieu. Lorsqu'on regarde notre vie, est-ce qu'on obéit au Seigneur, si on suit sa parole? Dans Psaume 119, 165, il dit ceci, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment tes instructions. » Et il ne leur arrive aucun malheur. Ce matin, nous avons besoin de prendre trois décisions. Des décisions qui parfois sont difficiles parce qu'il y a peut-être une situation dans laquelle tu trouves que tu ne peux rien changer, mais tu trouves difficile de laisser le contrôle à Dieu par la foi. Es-tu prêt à le faire? D'accepter les situations que tu ne peux pas changer par la foi? C'est ça que Dieu te demande ce matin. D'accepter la situation que tu ne peux pas changer. De lui faire confiance. Confiance que c'est un Dieu d'amour plein de tendresse et d'abandonner ma vie entre ses mains. Trois décisions qui nécessitent l'aide de Dieu. Prions le Seigneur. Oh, tu sais, Seigneur, comment j'ai du ressentiment à l'endroit de certains problèmes que je peux vivre.
On a souvent de la colère, même devant des situations qu'on ne peut pas changer, Seigneur. Tant de fois, plus d'une fois, Seigneur, j'ai essayé de prendre le contrôle de ma vie. Et bien des matins, je me suis levé et me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle de ma vie. J'aimerais te demander pardon, Seigneur. Mes frères et sœurs qui sont ici ce matin ont besoin aussi. Ont besoin de ton aide. Et par la foi, nous décidons ce matin d'accepter les situations qu'on ne peut pas changer. Et ça, c'est difficile, Seigneur, pour certains parmi nous qui souffrent beaucoup. Mais par la foi, Seigneur, ce matin, d'accepter ce que je ne peux pas changer. De te faire confiance, Seigneur. Faire confiance pour des choses que j'ai de la misère à te faire confiance. Et d'abandonner ma vie entre tes mains. Abandonner mon avenir entre tes mains. Abandonner des situations qui sont si difficiles entre tes mains, Seigneur. Oui, mon Père, par la foi, je te remets ma vie entre tes mains parce que je sais que c'est là que je vais avoir la paix intérieure. Peut-être que vous êtes là dans votre chaise et vous avez resté les yeux fermés, la tête courbée. Vous êtes seul avec Dieu ce matin et c'est Dieu qui parle à votre cœur. As-tu une situation en ce moment que tu as besoin de céder à Dieu? Eh bien, si ce matin tu veux céder cette situation à Dieu par la foi, tu peux lever la main droite. Quelques-uns lèvent leur main. Gardez votre main levée. D'accord, vous pouvez la baisser. Peut-être que d'autres. Je réalise que c'est une grosse décision, des décisions par la foi, parce que c'est des situations des fois qui durent pendant des années. D'accepter les situations que je ne peux pas changer. Ce matin, je prends cette décision par la foi, Seigneur. D'accepter les situations que je ne peux pas changer. Deuxièmement, de te faire confiance, Seigneur. Oui, d'autres, les mains se lèvent. Puis tu prends la décision de faire confiance à Dieu, au Dieu tendre, qui va s'occuper de toi. Et troisièmement, abandonner à Dieu. As-tu de la difficulté à abandonner le contrôle de ta vie entre les mains de Dieu? Ce matin, par la foi, tu veux poser ce geste? Seigneur, moi ce matin, par la foi, je décide d'abandonner ma situation de tes mains. Parce que je sais que dans tes mains, elle est mieux placée que dans mon cœur. Ô Seigneur, plusieurs ont prié ce matin, plusieurs ont pris cette décision. Nous te demandons maintenant, Seigneur, et nous te remercions à l'avance pour la paix que tu vas nous donner dans nos cœurs. Par ces trois choix que nous venons de faire, d'accepter, de te faire confiance et d'abandonner tout entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est le Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne ta paix. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.